RFI. Julien Coquelrem, c'est à vous.
Merci Vincent Dublange. À tout à l'heure. RFI Matin continue avec le journal des sports. Bonjour Victor Messistrano.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
À la une, le football, on continue d'évoquer ce matin la trêve internationale. Les champions d'Afrique sont en stage au Canada.
La Côte d'Ivoire jouait cette nuit un match amical à Toronto face à la Nouvelle-Zélande. Et malgré une très nette domination, défaite 1-0 des éléphants qui ont manqué de réalisme, il va falloir rectifier le tir mercredi contre la sélection canadienne. En attendant, parmi les matchs à suivre aujourd'hui, les Léopards de RDC qui ont battu le Mali jeudi affrontent Madagascar, ça se passe à Orléans, dans le centre de la France, à 15h, temps universel.
Et pendant ce temps, en République démocratique du Congo, le championnat féminin débute.
Le coup d'envoi a été donné hier, mais les 23 équipes ne sont pas encore toutes arrivées à Lubumbashi. De nouvelles difficultés dans un championnat qui est déjà entamé avec du retard. Le temps presse car il doit se terminer le 28 juin. Et pour l'heure, la compétition n'attire pas les foules. Pascal Mangala.
C'est dans un stade quasiment vide de Mazembe que le go de la 16e édition du championnat national de football féminin de RDC a été donné. Une situation qui désole Naïs Mukebo, une journaliste des sports de Lubumbashi.
C'est vraiment déplorable. À quoi bon avoir tant de reports pour des résultats pareils? C'est dommage.
Un championnat reporté à 3 reprises avant son démarrage. Lamia Boumedi, coach marocain de Mazembe, craint pour la suite.
Sachant que le 5 juillet, c'est le premier match de la Coupe d'Afrique des Nations, on est obligé de libérer les joueuses internationales pour intégrer leurs équipes nationales. Si on ne va pas terminer le championnat d'ici le 26, ça va être un grand problème pour nous.
Sur le terrain, ce ne sont pas les ambitions qui manquent. Un rêve que les filles des clubs du Nord et Sud Kivu ne savent pas réaliser cette saison suite à la guerre qui secoue cette partie de la RDC. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI.
Le basket à présent aux États-Unis. Victor, nouvel épisode des finales de la NBA ce soir.
Le deuxième, il aura lieu la nuit prochaine à Oklahoma City. Indiana mène 1-0 pour l'instant après sa victoire renversante déjà sur le parquet du Thunder en ouverture de ses finales. Jamais titrés, les Pacers continuent donc de déjouer tous les pronostics. Ils ne sont plus qu'à 3 succès d'un titre de champion, un trophée qu'a déjà remporté dans sa carrière l'ailier Pascal Siakam en 2019 avec Toronto. En plus d'être un joueur majeur, le Camerounais de 31 ans apporte toute son expérience aux Pacers.
Ça fait plaisir donc d'avoir l'opportunité d'être un leader dans une équipe de jeunes et le fait que j'ai déjà eu à jouer dans la NBA Finals, ça m'aide vraiment et je peux apporter cette expérience à mon équipe. Mais on a une très bonne équipe et tout le monde joue ensemble et à la fin, bon, c'est une très bonne expérience et on espère être victorieux.
Oklahoma City, Indiana, match 2 des finales prévues à minuit, temps universel la nuit prochaine. Et puis sur le parquet de Pretoria en Afrique du Sud, début des quarts de finale de la Basketball Africa League. 2 affiches aujourd'hui. Les Libyens d'Al Ahly Tripoli jouent leur place en demi contre les Capverdiens du Creole Star. Et puis Julien, les Égyptiens d'Alitia d'Alexandrie affrontent le FUS de Rabat.
Merci Victor Messistrano.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquelrohem.
Et à la une de l'info ce matin, une décision de Donald Trump volontairement incendiaire. Selon le gouverneur de Californie, le président américain a annoncé cette nuit le déploiement de 2000 membres de la garde nationale à Los Angeles, où des heurts ont éclaté lors de manifestations contre des arrestations massives d'immigrés en situation illégale. Dans la bande de Gaza, 36 morts de plus hier dans les bombardements israéliens, 6 personnes tuées notamment à proximité d'un point de distribution de la GHF, la Gaza Humanitarian Foundation, sous contrôle israélien et américain, déjà marqué par de nombreux morts lors de son lancement, alors qu'Israël a ordonné l'évacuation de plusieurs quartiers dans le nord de la bande de Gaza. Hier, l'OMS s'inquiète d'un effondrement du système de santé dans la zone. Plus aucun hôpital n'est en service dans le nord de l'enclave. En Colombie, un candidat à la présidentielle de l'an prochain blessé par balle à la tête dans une fusillade qualifiée d'attentat par le gouvernement. Miguel Uribe, sénateur conservateur, était en meeting à Bogota. Il est actuellement à l'hôpital en soins intensifs. 2 autres personnes ont été blessées. 7h47 à Paris. Et bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Julien Coquelrohem, bonjour à tous.
La revue de presse, les hebdomadaires et les magazines, et à la une de plusieurs hebdos français cette semaine, l'enlisement de la guerre à Gaza.
Oui, un conflit subi notamment par les enfants palestiniens. Cette population représente la moitié des Gazaouis et c'est à elle que s'intéresse Politis cette semaine avec ce titre « L'enfance assassinée ». Il y a d'abord ce témoignage de Bilal. Il a 15 ans, le jeune garçon est trop maigre pour son âge, trop fatigué également parce que les adolescents sont considérés comme plus agiles, plus résistants. Chaque jour, ils parcourent des kilomètres au milieu des tentes et des ruines pour trouver des aliments, de l'eau ou de quoi faire du feu.
La survie a désormais totalement pris le pas sur l'éducation.
Dans ce territoire où le taux d'analphabétisme était parmi les plus faibles au monde, autour de 2% selon l'UNICEF, 9 écoles sur 10 ont été rayées de la carte sous Pierre Politis, un éducide enchéri le chercheur Ziad Majed, pour qui les attaques israéliennes montrent une volonté d'en finir avec le système éducatif. « On m'a volé ma vie », souffle Riyab, 15 ans également, qui rêvait d'université. « On m'a volé cette joie », fulmine pour sa part Allah dans le dossier du point « Où va Israël ?», qui revient aussi sur le sort des Gazaouis. À 23 ans, elle a fini par obtenir une licence de littérature sous les bombes et remplit ses journées de lecture, d'écriture et de musique pour ne pas sombrer.
Ces conséquences humaines sont celles de la guerre sans fin voulue par Netanyahou.
Le point grogne devant cette fuite en avant personnelle. Le premier ministre israélien s'enferme dans une réalité parallèle, pensant qu'une majorité immense d'Israéliens dit « Bibi, n'arrêtez pas !» et ce, alors même que la population rejette en fait grandement la politique de son gouvernement. Les sondages qui donnent sa coalition perdante au prochain scrutin, truqués et fabriqués de toutes pièces. Interrogé par l'Hebdo, l'ancien chef des renseignements de l'armée israélienne, Tamir Ayman, confie « L'idée d'une victoire totale est illusoire. La raison pour laquelle l'exécutif ne veut pas la fin de la guerre, explique-t-il, c'est qu'elle entraînera l'organisation de nouvelles élections qui aboutiront à la chute de la coalition Netanyahou. »
Le premier ministre israélien, d'abord largement soutenu par Emmanuel Macron, avant une prise de distance.
Une trajectoire sinueuse tracée par le président français, comme le raconte le Nouvel Obs, avec notamment cette infographie qui tente d'établir une corrélation entre l'évolution du discours d'Emmanuel Macron sur ce conflit et celle du nombre de morts à Gaza. Fin 2023, il sert du dire Bibi, cher Bibi, et ce alors que 6000 personnes ont déjà été tuées à Gaza, puis évoque ensuite une coalition anti-Hamas dont il n'a parlé à personne. Des ambassadeurs français dénoncent dans une note interne le virage pro-israélien du président. Puis la sémantique change. À l'automne dernier, Emmanuel Macron prend aussi conscience qu'une reconnaissance de l'État de Palestine lui permettrait de laisser une trace dans l'histoire. Désormais, il s'est engagé trop loin pour reculer, estime le chercheur Jean-Paul Chagnolo. Si la séquence qu'il a enclenchée n'aboutit pas, sa parole disparaîtra.
Et à l'agenda du président français également, la question de la protection des océans.
Avec l'ouverture demain de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, à cette occasion, Emmanuel Macron lance donc un appel à la remobilisation sur l'écologie dans plusieurs titres, dont le Parisien dimanche. Le dirigeant français a connu des marées hautes et des marées basses, tente le journal de la capitale, mais estime ne pas avoir de leçons d'écologie à recevoir. Dans le sud-est de la France, entouré d'une cinquantaine de chefs d'État, il n'y en a jamais eu autant, se félicite-t-il, il ratifiera un texte sur l'interdiction de la pêche illégale et plaidera pour un renforcement des aires marines protégées et un moratoire d'exploitation des grands fonds marins.
Car ces abysses font l'objet de convoitises de plus en plus insistantes.
Le Nouvel Obs part d'un exemple, celui de Gérard Barron, sulfureux chef d'entreprise australien à la tête d'un empire minier. Et pour le Elon Musk des abysses, comme il est surnommé, l'horizon s'est subitement éclairci avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Le président américain ayant en effet signé en mars un décret autorisant l'extraction de minéraux jusque dans les eaux internationales. Une nouvelle ruée vers l'or, jubile même une agence aux mains de l'administration Trump qui pourrait doper le PIB américain de 300 milliards de dollars et créer 100 000 emplois en 10 ans. La Chine aussi multiplie les campagnes exploratoires dans le Pacifique, souligne l'Express qui dédie aussi ses pages géopolitiques à la guerre des abysses. Un terrain qui, par son opacité, favorise les modes d'action offensifs, décrypte encore l'Express, notant au passage que l'armée de la France, qui possède l'un des plus grands domaines maritimes avec ses territoires d'outre-mer, se dote d'outils de surveillance de pointe, comme ce drone pouvant plonger à 6000 mètres de profondeur.
Sauf que ses appétits pour le cobalt, le manganèse ou le cuivre sous-marin font craindre le pire aux défenseurs de l'environnement.
Ah oui, pas sûr que Mère Nature s'en réjouisse, grince le Nouvel Obs. L'océan joue en effet un rôle crucial de régulation du climat avec un quart de nos émissions de CO2 captées chaque année. Le chercheur Bruno David craint qu'une fois remués, les sédiments qui tapissent le fond des mers ne relarguent dans l'atmosphère le CO2 stocké, sans oublier que la vie foisonnante abritée par les fonds marins risque d'être grandement perturbée.
Paul Lonsin-Spinelli, merci beaucoup. et dans l'Afrique en marche. Ce matin, nous sommes à Abidjan, où depuis 2023, un centre accueille avec bienveillance les femmes et les enfants victimes de maltraitance, de violence ou d'agression sexuelle. Akwaba Mousso est un refuge, mais aussi un lieu où l'on apprend à se reconstruire. Et c'est un reportage signé Frédéric Gara.
C'est une des rares associations, peut-être même la seule de ce genre en Côte d'Ivoire, qui propose un centre d'accueil pour les femmes et leurs enfants victimes de violences, toute forme de violence, au sein de la cellule familiale. Akwaba Mousso, deux mots forts de signification pour Maureen Grisot, cofondatrice et directrice de l'association.
Ça veut dire bienvenue à la femme dans deux des langues principales de la Côte d'Ivoire, en langue akan et malinké.
C'est lorsqu'elle était journaliste en Côte d'Ivoire que Maureen Grisot a constaté le dénuement dans lequel se trouvaient les femmes victimes de violences conjugales. Aussi a-t-elle créé à Cocody, avec d'autres associés, ce centre qui prend soin des femmes maltraitées.
Il était fondamental de créer un centre dans lequel une femme ou un enfant qui a subi une violence peut trouver toutes les réponses dans un même endroit, gratuitement, sans avoir à affronter des jugements et des paroles malveillantes. Une fois qu'on a répondu à l'urgence liée à la violence, on s'est rendu compte que plus les femmes sont vulnérables économiquement, plus elles sont exposées aux violences, ainsi que leurs enfants. Donc il était fondamental d'avoir non seulement l'offre de juristes, assistants sociaux, psychologues, sages-femmes, mais aussi la mise en sécurité dans un foyer d'hébergement et trouver des solutions pour qu'elles puissent sortir de ce foyer dans des conditions qui lui permettent de gérer sa famille comme elle l'entend et de ne plus retomber dans le cycle des violences.
Au centre d'accueil, il y a une crèche et aussi un atelier de couture pour aider à la réinsertion professionnelle. Cette femme, qui souhaite rester anonyme, se félicite d'y avoir appris un métier et d'avoir surtout raccommodé un peu de son amour propre.
Ce centre a été
pour moi très bénéfique. C'est très utile parce que je me dis que ce que j'ai appris aujourd'hui, je n'allais pas pouvoir le faire en étant hors de ce centre. Je suis contente parce que moi, qui n'avais pas d'importance aux yeux des autres, aujourd'hui, grâce à Akwaba Mousso, je sais que je suis importante parce que j'arrive à montrer ce que j'ai acquis à d'autres femmes.
Nana Sila Koulibaly, experte comptable, conseille et accompagne ces femmes dans leur projet de s'émanciper économiquement en construisant leur avenir professionnel.
En fait, je suis très émue à chaque fois que je viens ici parce que je suis contente qu'elles ne soient pas réduites qu'au fait qu'elles sont victimes de violences. Elle et moi, on n'a pas ce genre de discussion. On est vraiment très basé sur le business. Et c'est des femmes qui ont des rêves, c'est des femmes qui ont des compétences, c'est des femmes qui ont envie de faire des choses. Et je leur apprends à vraiment se forger un mental d'entrepreneur pour vraiment passer à une étape supérieure de reconstruction. On a sélectionné 4 femmes parce qu'on en a eu un gentil bailleur qui a voulu mettre à disposition des fonds pour financer le lancement de leur business.
Qui est gentil bailleur? Parce qu'il est gentil, on peut donner son nom.
Oui, c'est la Fondation Vinci. C'est vraiment des personnes très formidables déjà parce qu'elles ont mis aussi en place un mentorat pour ces dames-là. Elles sont très impliquées et tout ce qu'elles veulent, c'est vraiment voir ces dames-là s'en sortir et devenir autonomes.
Autre profil de femme secourue, cette quinquagénaire et son fils battu par un mari violent, ont trouvé refuge à Akwaba Mousso.
Vous savez, divorcer en Afrique ou quitter son foyer en Afrique, c'est comme si tu commettais un crime. Voilà, il n'y a personne qui veut te recevoir. C'est pour ça qu'on garde le silence. Voilà, on subit. C'est pour ça qu'on subit jusqu'à ce que mort s'en suive quelquefois. Donc, si je n'avais pas eu Akwaba Mousso pour me soutenir, je serais encore là-bas ou bien peut-être déjà partie.
Au fil de la visite, Maureen Grisot rappelle la philosophie de son centre.
Il n'y a rien de linéaire en fait. Il y a tellement de galères dans la vie. On est en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de filet social. Donc, ce qu'on a compris aussi, c'est qu'on ne peut pas tout sauver, on ne peut pas tout changer. En revanche, nous, notre rôle, c'est de convaincre les femmes qu'elles peuvent avoir confiance en elles et de les aider à trouver leur voie, à trouver les moyens d'être fiers d'elles.
Motif de fierté pour Akwaba Mousso. Depuis 2023, le centre a accueilli près de 350 femmes et enfants victimes de violences et 93 femmes ont bénéficié d'un programme d'autonomisation et de réinsertion économique.
Et si vous êtes victime de violence, si vous souhaitez contacter ce centre à Abidjan Cocody, je vous donne son numéro 225 07 69 84 84 84. Vous le retrouvez aussi sur RFI.fr. Bientôt 6h en temps universel. Et avant le journal, un peu de musique avec deux Espagnols, DJ Pimp et le rappeur Bero. Leur titre Tutti Frutti est dans la sélection du mois de RFI.
A mí siempre me dio igual lo que me digan. Miré para otro lado y me tropecé. Ey. Seguí por mi camino como una hormiga. Y aunque la calle era sin salida, yo igualmente entré. Me quité el peso de encima y me puse la pila. Ya no pierdo el tiempo con paripé. Ahora mi miro las cosas con perspectiva y desde que arriba lo veo todo de color pastel. Lo bueno si barato dos veces bueno. Estoy ahorrando pa' comprarte un coche nuevo. Si quieres ir pa' la luna yo te llevo, pero luego no sé muy bien cómo vamos a volver. Dime a quién no le gusta el mango. Yo lo compro al por mayor si se está agotando. Un viejo muy sabio me dijo una vez que esta vida es como un tango y yo contigo quiero bailar a mi sonda. Vamos pa' la playa, ahora llevo la crema. Te la pongo en las nalgas por si se queman. Tus ojitos canela y tu piel de azúcar morena. Lo único que quiero de cena, el olor de tu fragancia. Tus movimientos con elegancia me tienen otra vez en periodo de lactancia. Bebé, tú estás más dura que el Tour de Francia. No sé, dime cómo quieres resolver. Dime a quién no le gusta el mango. Dime a quién. Hey. Mami, yo lo quiero todo, a mí no me lo des por tanda. Solo quiero darte de lo que te encanta. No te andes con rodeo, que tú no eres santa. Yo no sé pa' qué te aguanta. Las olas van y vienen, pero yo sigo en la orilla. El reflejo del sol en tu culo brilla. A tu lado me siento de maravilla. Si fue como otra vez me convertí en un pasotilla. Ey, las manos pa' arriba y con el culo hasta el suelo. Mente positiva, no me corto ni un pelo. Con esa carita podría ser supermodelo. Y estaba de corazón pa' mi gente quieta, en especial dedicación.
DJ Pimp et Bero, deux espagnols sur le titre Tutti Frutti. La sélection du mois de RFI, vous la retrouvez sur musique.rfi.fr. Et le journal dans 30 secondes. A tout de suite.
Le musée de la musique de la Philharmonie de Paris présente sa nouvelle collection permanente, l'une des plus grandes collections mondiales avec 9000 instruments et œuvres d'art. Les instruments d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique sont exposés dans un parcours inclusif, retraçant l'histoire de la musique du XVIe siècle à aujourd'hui, en montrant les connexions et influences entre continents. Plus d'informations sur philharmoniedeparis.fr, en partenariat avec RFI.